10h, 11h, l'islam au présent,
l'islam au présent,
l'islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue, bon week-end, bonjour Imam Abdelali.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Bonjour à toi Philippe et bonjour à Fadilat Cheikh, tahiyya kabira lil Ustad al-Fadil Mohamed Bajrafil. Ahlan bik ya akhi al-Karim, bienvenue.
De retour de la Oumoua, Imam Abdelali.
Ouais, j'ai encore l'arabe dans la bouche, tu vois, c'est encore, j'ai encore du mal là, à me détacher de la langue.
Bien. Si Mohamed Bajrafil est avec nous, c'est pour nous parler de son nouveau livre qui vient de sortir. Il a pris son stylo pour écrire une lettre à un jeune musulman. Et on verra ce qu'il lui dit tout à l'heure à ce jeune musulman qui l'interpelle. Alors, Mohamed Bajrafil, Imam Abdelali vous a expliqué le concept de l'émission. Nous la débutons chaque semaine par un verbe coranique. Lequel est-il cette semaine, Imam Abdelali?
Alors j'ai choisi de choisir de
prendre.
Choisi de choisir. C'est pas français.
Ça fait beaucoup de choisir.
Voilà. J'ai décidé de choisir aujourd'hui un verbe qui n'est pas dans le Coran, mais dont il y a la dérivée du verbe. C'est le verbe ayqada. Alors ayqada, pourquoi? Pour être dans le fil du sujet qui est en rapport avec le titre du livre de notre invité. Réveillons-nous, donc qui veut dire réveiller, le verbe réveiller ou éveiller, de son radical yaqada. Al-yaqada, c'est le radical, le nom qui est radical, qu'on appelle le masdar. On dit le masdar, c'est le mot yaqada. Son dérivé istayqada, avec un préfixe ist. À chaque fois quand nous avons un préfixe x, ist en arabe. En français, c'est à la fin qu'on le met, le ist. Hein, quand on veut dire islam, islamiste, radical, radicaliste, etc. Nous, en arabe, c'est...
communiste.
Voilà, commune, communiste, etc.
Il y en a plein. Hein,
voilà, c'est l'affiliation. En français, c'est l'affilié. Je suis affilié à... Alors qu'en arabe, ist veut dire demander. Hein, quand par exemple, rafara, pardonner. Istarfara, c'est demander pardon.
Demander pour soi.
Pour soi. Ouais, ou starfara li akhad,
li adrele. C'est demandé pour.
Voilà. Et ist, donc en arabe, si on l'ajoute à l'auverbe yaqada, istayqada, c'est faire l'effort de se réveiller. Et c'est celui qui nous intéresse parce qu'il est effectivement le contraire de al-rafla, qui veut dire l'insouciance. Ce qui est effectivement extrêmement répété en tant que verbe, en tant que nom d'action, en tant que radical, el rafla ou el rafil ou el rafiloun, yarfaloun, et donc tout cela est effectivement énormément cité dans le Coran pour bien sûr une mise en garde par Dieu de ne pas être dans cette insouciance. Un synonyme de ayqada ou stayqada, c'est le verbe afaqa, et qui lui aussi nous intéresse puisqu'il est en rapport avec ce pourquoi nous avons cet invité aujourd'hui qui va nous parler de l'importance d'être éveillé. An yakuna al-insan mustafiqan mustayqidan yaqidan, éveillé dans la société afin de...
C'est éveillé dans la société, c'est pas éveillé au sens de dormir.
Non, c'est dans le sens justement figuré, dans le sens où est-ce que le musulman doit être dans le souci de son quotidien, de ce qui est important et nécessaire à accomplir dans sa vie. Et la première des choses, bien sûr, c'est sa mission, pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre, c'est l'adoration, de consolider ce lien intime qu'il doit avoir avec Dieu, ce rappel qui est le contraire de al-rafla, de l'insouciance, qui est le dhikr. Je rappelle que le mot ayqada, ou son radical yaqada, n'est cité qu'une seule fois dans le Coran, dans surat la grotte, la caverne, donc surat 15, dans le verset 18, où Dieu dit « Et tu les aurais cru éveillés, wa tahsabuhum ayqadan, wa hum ruqud, alors qu'ils sont endormis », nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Donc le mot yaqada n'est pas cité dans le Coran, à part dans cet exemple-là.
Quel est, Imam Abdelali, le sens de cette inconscience à laquelle Dieu nous met en garde?
Alors, la rafla, donc c'est effectivement cette expression-là que Dieu nous met en garde, ou par exemple dans la sourate Al-A'raf, verset 179, Dieu dit « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Hein, et nous avons bien sûr prévu pour l'enfer beaucoup de d'hommes que nous allons condamner et de djinn à y être condamnés, l'enfer donc, car ils n'avaient des cœurs qu'ils n'utilisaient pas pour réfléchir, ils avaient des yeux qu'ils n'utilisaient pas pour voir ou voir la vérité, ils avaient des oreilles qu'ils n'utilisaient pas pour écouter, là encore une fois, la vérité. Ils sont comme des bestiaux, même, et même plus égarés, dit dans, dans le Coran. Ils sont pires que des bestiaux, car ce sont eux ceux qui sont ce qu'on appelle inconscients, qui sont dans l'inconscience, dans l'indifférence, dans leur insouciance de ce pourquoi Dieu les a créés sur terre. Et donc Dieu, Allah Azza wa Jalla, a prévu pour eux Jahannam, le châtiment de l'enfer, parce qu'ils ils se sont comportés pire que des bestiaux, ils se sont égarés, ils ont suivi leur passion, ils se sont laissés aller à leur pulsion, ont commis des turpitudes, ont commis des péchés, ont répandu le mal, le désordre, le chaos sur terre, parce qu'ils ils n'ont pas suivi leur raison et ne se sont pas mis dans cet éveil nécessaire à être des éléments productifs, bienfaiteurs dans ce bas monde, comme Allah Azza wa Jalla l'exige. Dieu dit aussi dans le premier verset de Sourate Al-Anbiya, « Iqtaraba linnasi hisabuhum wahum fi ghaflatin mu'aridun » Il dit, Allah Azza wa Jalla, « Bientôt est arrivé le moment où est-ce que Dieu va juger les hommes, alors qu'ils sont en pleine inconscience. Détournés, ils sont détournés par leur inconscience. Et dans un autre verset, il dit justement wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. N'écoute pas surtout ceux qui se sont laissés emmener dans leur insouciance de notre rappel, c'est-à-dire de l'importance de se rappeler du lien qu'ils doivent avoir avec nous. Et donc, Allah Azza wa Jal nous met en garde. Et donc, il est très important de garder ce lien avec Dieu. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Là encore, Allah Azza wa Jal nous rappelle que ces gens-là sont inconscients de ce qu'ils devront rendre comme compte le jour de la résurrection. Ils en sont totalement inconscients. Et plein d'autres versets, hein, je ne vais pas toutes les citer. Hein, dans un autre verset, par exemple, il dit وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ en sourate Qaf وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا Tu étais dans l'insouciance, justement, de ce jour où est-ce que Dieu va souffler et déclencher le jour du jugement dernier. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace, alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent, tu restais insouciant. Un rafel, fi raflati min hada, à cela. Eh bien, nous ôtons aujourd'hui ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Fabasaruka al-yawma hadid. Donc voilà pourquoi il est important d'être dans cet éveil. Parce que nous ne pouvons pas nous permettre de dire que nous sommes envoyés sur terre ici simplement pour brouter, nous reproduire et dormir. Nous avons au-delà de tout cela un devoir, une mission à accomplir dans ce bas monde, c'est répandre le bien, c'est consolider une relation harmonieuse avec notre Créateur qui forcément va se répercuter dans une relation harmonieuse avec les créatures. C'est ce pourquoi Dieu nous a désignés comme les vicaires, les successeurs, les khulafa, les califes de Dieu, ses successeurs.
Alors, vicaire, vous l'entendez dans quel sens ?
Mandaté. Nous sommes mandatés par Dieu. Dieu nous a, Wukala, il nous a mandatés pour être sur terre les créatures qui ont le plus grand pouvoir grâce à leur raison et que malheureusement certains n'utilisent pas pour être au service de l'humanité, pour être au service de la création en général, pas seulement de l'humanité, car nous avons une terre à protéger avec tout ce qu'il y a dedans, comme faune, comme flore, comme humain, comme tout ce qu'il peut y avoir sur terre. Et nous sommes redevables de comptes à rendre à Allah Azza wa Jal si, au contraire, nous n'assumons pas cette responsabilité en tant que bienfaiteur. De la même manière qu'un gouverneur, qu'un dirigeant qui a une responsabilité vis-à-vis de son peuple, nous avons, nous, les êtres humains, une responsabilité vis-à-vis de toutes les créatures qu'il y a sur terre.
Alors, quels sont les moyens pour garder son cœur éveillé, Imam Abdel Ali ?
Eh bien, d'abord, l'évocation, al-dhikr. قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين في سورة الأعراف le verset 205 de la sourate Al-A'raf, où Dieu nous dit « Évoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte, à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas des nombres des insouciants. » Hein, c'est une manière de rester dans l'éveil, c'est de rappeler le nom d'Allah à travers. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, un grand savant du Moyen-Âge, qui était un grand mystique, hein, que l'on souvent remet en cause, mais qui effectivement, rien que dans son ouvrage Le chemin des itinérants, Madarij as-Salikin, a fait un travail magnifique de méthodologie de cheminement spirituel. Il dit « Ala qadri ghaflati al-abdi » Autant l'homme est dans l'insouciance de ce rappel, autant il est dans l'éloignement de Dieu. Bien sûr, il y a aussi choisir ses fréquentations. C'est la deuxième manière d'éviter d'être dans l'insouciance. Hein, puisque effectivement, quand on fréquente des gens qui sont dans l'insouciance, des gens qui sont dans le péché, qui vivent au milieu des turpitudes, qui fréquentent par exemple des lieux détestés par Dieu, tels que les bars ou des endroits où est-ce qu'on pratique les péchés, les cabarets, etc. Eh bien, forcément, on est dans l'insouciance, on est pris par l'insouciance des personnes que l'on fréquente. Alors qu'une personne, au contraire, qui elle fréquente les gens bien, les gens de connaissance, il le dit lui-même encore une fois. Ce grand imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit « Inna majalis al-dhikri, majalis al-malaïka ». Les assises d'éveil ou de rappel sont les assises des anges. « Wa majalis al-larwi wa al-ghafla » et les assises de larou, c'est-à-dire de discussion futile et d'insouciance, sont des majalis de shayatin, sont des assises démoniaques. De démons. فَلْيَخْتَرِ الْعَبْدِ أَعْجَبَهَا إِلَيْهِ. Que chacun d'entre nous choisisse celle qui lui plaît le mieux. وَأَوْلَاهَا بِهِ. Et celle qui lui correspond. فَهُوَ مَعَ أَهْلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Car il sera avec sa famille dans ce bas monde, comme il sera aussi dans sa famille dans l'au-delà. Donc si tu choisis la mauvaise compagnie dans ce bas monde, tu seras avec elle le jour de la résurrection, et ainsi de suite. Ainsi, si tu choisis les gens de la bonne compagnie, tu seras avec eux le jour de la résurrection, c'est-à-dire les gens qui auront obtenu la félicité d'Allah Azza wa Jal. Ibn Abbas rapporte une belle parole où il dit qu'il s'est adressé au prophète, il dit « Ya Rasulullah, ayu julasa'ina khayr » quelle est la meilleure des personnes avec qui il est bien de s'asseoir et de fréquenter. « Qala Rasulullah sallam, man dhakkarakum Allahu bihi ru'yatuh » C'est celui qui vous rappelle Dieu dès que vous le voyez. Dès que vous le voyez, vous pensez à Dieu. وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْتِقُهُ. Et celui qui ajoute votre connaissance, ses propos et ses paroles. Ses paroles augmentent votre connaissance. وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ. Et ce sont ceux dont les actes vous rappellent l'au-delà. Voilà les personnes qu'il est préférable de fréquenter. Et c'est avec eux qu'il faut, Inch'Allah, exceller dans les rapports. Et puis un dernier moyen de rester dans le rappel et d'éviter d'être dans l'insouciance, et je terminerai par ça, c'est le fait d'avoir ce rendez-vous quotidien avec le Coran, qui est le meilleur des rappels. In huwa illa dhikrun. Le Coran n'est qu'un rappel pour les mondes, lil alamin. Et surtout ne pas tomber dans l'erreur, parce que le prophète lui-même s'est plaint auprès de Dieu quand il a dit وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Hein, encore dans la sourate Al-Furqan, discernement, verset 30, il dit « Oh mon Dieu », le prophète dit « Les gens ont délaissé ta parole et se sont éloignés de ton rappel ». Donc, il faut impérativement garder ce lien, ce rendez-vous quotidien avec le Coran, que ne serait-ce qu'en l'écoutant, ou en le lisant, ou en se remémorant ce que l'on a appris. Donc, c'est important que chacun d'entre nous ne considère pas le Coran comme une décoration dans sa bibliothèque, mais quelque chose qu'il yata'ahad ou kullayoum, qu'il doit avoir, avec qui il doit ouvrir quotidiennement. Et puis aussi visiter les cimetières, c'est la dernière chose que je dirais. Visiter les cimetières, le prophète dit dans un hadith, hein, je vous avais interdit de visiter les tombes. Je vous avais interdit d'aller rentrer dans les cimetières. لَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا. Au contraire, allez-y, fréquentez, visitez les tombes. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ نَوْتِ. Elle vous rappelle le moment où vous allez mourir et rendre compte de ce que vous avez fait. Et donc peut-être vous motiver à être bienfaiteur dans ce bas monde et à vous approvisionner en bonnes œuvres, inshallah ta'ala.
Imam Abdelali Mamoun, notre invité aujourd'hui, c'est le professeur Mohamed Bajrafil. Et si vous voulez bien, tout à l'heure, nous feuilleterons son livre, son nouveau livre s'appelle « Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman » aux éditions Plein Jour. On le lit avec vous dans un instant.
Inch'Allah.
C'était l'Islam au présent, avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Sur Beurre FM.
Sur Beurre FM. Sur Beurre FM. L'islam au présent.
L'islam au présent.
L'islam au présent. Avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Sur Beurre
FM. C'est l'islam au présent sur Beurre FM. Imam Abdelali, nous avons un invité aujourd'hui, c'est le professeur Mohamed Bajrafil. Rebonjour professeur, vous êtes théologien, linguiste et vous êtes auteur de Réveillons-nous, sous-titré « Lettre à un jeune français musulman » aux éditions Plein Jour. C'est un livre assez provocateur, on va dire.
Non, provocateur, non, parce qu'on parle de réveil.
Alors, interpellateur, on va dire.
Qui appelle au réveil. Et vous savez que pour réveiller quelqu'un, il faut le secouer un tout petit peu. Et on réveille une personne qui n'est pas morte, mais on ne réveille pas une personne qui est décédée.
Vous employez le mot bigoterie. Et vous dites que la bigoterie semble avoir pris le dessus dans la génération actuelle. De quelle bigoterie parlez-vous en général? La bigoterie, c'est quelque chose qu'on emploie pour les... Pour les cathos, d'habitude.
Bah, la bigoterie, c'est par définition...
C'est Molière, c'est...
Au-delà d'être plus royaliste que le roi, on va en effet y venir, il y a l'idée que... l'idée d'une compréhension de la religion qui est plutôt, basée sur la culture du détail, au détriment de l'important... En gros, c'est une compréhension, si je puis m'exprimer ainsi, à l'envers de ce que c'est, de ce que sont véritablement les textes. Donc, c'est pas propre à une religion davantage qu'à une autre.
C'est vrai pour les autres religions que l'islam.
Et le prophète, d'ailleurs, a dit à plusieurs reprises. Il y a beaucoup de propos du prophète, dont un qui me vient en tête, dans lequel, d'après Aïcha sallallahu anha wardaha, et on le trouve chez Bukhari et d'autres. Il dit inni la tarakhasu fi ashya'in, je me permets de faire des choses, donc de prendre des dérogations dans certaines choses que certains parmi vous, par bigoterie justement, eh bien trouveraient bizarres. Et pourtant, dit-il, wallahi inni a'lamukum billah wa atqakum, je connais plus Allah que vous et je le crains plus que vous. Sauf que quand on est dans une démarche de bigoterie, eh bien, on en vient à vouloir être même beaucoup plus divin que le prophète.
Alors, vous le tutoyez, hein, ce jeune français musulman, et vous lui dites, en regardant la vie du prophète, tu te rendras compte que nous avons, pour ainsi dire, inventé une religion à la place de celle qui nous a laissé.
Bien entendu, le professeur Assalam nous a dit d'ailleurs que, qu'il nous a laissé sur ce qu'il a appelé Mahajja Baydra. Un chemin si limpide que la nuit y est semblable au jour, et au fond ne s'en éloigne que quelqu'un qui a perdu le chemin. Et en effet, quand on revient à l'histoire...
Alors, Imam Abdelali, on a un problème avec votre micro. Voilà, ça n'a pas du tout votre micro. On ne vous entend pas. Alors, grâce au miracle de la technique... C'est ce que vous faites. Voilà. On va. Non, mais c'est pas. Allez-y. Est-ce que là, tu m'entends ? Non, c'est pas mieux. Non. Je vais vous donner un autre micro. Voilà. Regardez.
Micro qui s'était enlevé.
Voilà. Donc, maintenant.
Je pense pas qu'il marche. Non, c'est la même chose.
Non, on vous entend pas, Imam Abdelali.
Alors, c'est là. Est-ce que là, vous m'entendez ?
Non, c'est pas mieux. Alors, attendez, je vais vous chercher un micro, mine de rien.
C'est peut-être pas le micro, c'est peut-être simplement le. On coupera. Désolé. C'est
les aléas du direct. Hein.
C'est pas grave. Non, c'est pas du direct, justement.
Je sais.
C'est qu'on va pouvoir.
Il faut donner l'impression que.
On voit les pros.
On va pouvoir nous rafistoler. Là,
Vas-y.
Parce que moi, comme j'ai pas le casque, ça change.
Mohamed, c'est bon?
Non, vas-y.
Mais là.
Oui.
M'entendez là?
Non,
Ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que tu parles bien dans ton micro.
Bah, je parle bien, là, regarde. Tu m'entends?
Moi, je t'entends mieux. Là.
Bah, je crois que c'est peut-être...
Non,
je... Faire tes mains,
hein. C'est pas mal. Vas-y.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, c'est bien. Bon, allez, on y va.
On reprend.
Alors, bien. Mohamed Bajrafil, qu'est-ce que vous appelez les annulatifs de la foi?
Alors, les annulatifs de la foi, c'est ce qu'on appelle nawaqid al-iman ou nawaqid al-islam. C'était en référence à une petite épître écrite par le cheikh Mohamed ibn Abdel Wahhab, qui l'a intitulé nawaqid al-islam al-ashra, les annulatifs, les 10 annulatifs de la foi, que j'ai repris pour discuter et montrer que, eh bien, ils sont loin de faire l'unanimité. Et notamment en partant des deux premiers. Donc j'ai surtout analysé les deux premiers pour montrer que sur la base de l'analyse des deux premiers, la quasi-totalité des musulmans seraient non-musulmans. Et historiquement, d'ailleurs, au début de ce mouvement, il y a eu beaucoup, beaucoup de guerres contre des musulmans sur la base de la manière dont lui avait compris les choses. Ce qui, aujourd'hui, peut être aussi compris comme une des sources de la violence de certains groupes qui se réclament de la pensée du cheikh Mohamed.
Dans les choses dans leur contexte, Mohamed Ibn Abdel Wahhab est un savant du 18e siècle.
Ah, attendez, parce que vous allez quitter l'écran, venez, c'est pas grave. Allez vous mettre en face de Mohamed Bajrafil, comme ça, ça nous paraît. Je sais que c'est triste de ne pas vous avoir à l'image, mais puisque je rappelle que l'émission est filmée, donc vous pourrez la voir sur YouTube, mais je préfère qu'on entende encore votre voix.
Est-ce que là, vous m'entendez, là ?
Voilà, comme ça, c'est de la radio qu'on fait. Alors, là, vous étiez en train de dire, je vous rappelle que...
Alors. Oui, oui, je vous rappelle que, pour remettre les choses dans leur contexte, Mohamed Ibn Abdel Wahhab est le fondateur de ce mouvement qui date donc à peu près de 300 ans, qui a consisté à mettre en place le régime saoudien en place, donc au pouvoir dans la péninsule arabique, dans ce pays qu'on appelle l'Arabie saoudite, et qui a été soutenu théologiquement parlant par ce savant-là et tous ses acolytes qui ont propagé l'idéologie wahhabite, al-fikr al-wahhabi salafi, dans la péninsule arabique et voire même au-delà. Aujourd'hui, puisque nous avons aujourd'hui ce courant qui se répand un peu partout. Donc, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est que ce cheikh-là a, pour pouvoir autoriser et donner la permission de désavouer le régime qui était en place, qui gérait le monde arabe, notamment l'Empire ottoman, il fallait avoir des arguments pour discréditer d'un point de vue dogmatique toute l'idéologie sur laquelle était fondée l'Empire ottoman, pour justement se dire, nous avons le droit de nous rebeller contre vous et d'instaurer notre propre nation arabe saoudienne, parce que nous considérons que, justement, votre foi est annulée pour tel ou tel motif ou telle raison que lui a considéré comme étant valable. C'est ce sur quoi s'est basée et fondée la dynastie Saoud, Al-Saoud, et de là, ils ont construit leur... C'est pour cela que la dynastie Al-Saoud est intimement liée au wahhabisme. Si vous détachez le wahhabisme de la dynastie Al-Saoud, Al-Saoud n'a plus raison d'être, puisqu'elle a été fondée grâce à l'idéologie wahhabite.
Alors, c'est vrai que le wahhabisme, qui est un mouvement éponyme du nom de Cheikh Mohamed Ibn Abdel Wahhab, qui est donc ce savant... saoudien qui est né au début du 18e siècle et qui meurt à la fin de ce siècle, autant que je m'en souvienne. Ce savant va venir dans un contexte qu'il va considérer comme un contexte en effet d'instabilité sur le plan politique, avec bien entendu cet empire ottoman plus ou moins malade, moribond, qui finira bien entendu un siècle plus tard. Et il va se lancer dans une démarche de réunification des régions, ou plutôt des cités qui étaient indépendantes les unes des autres, de cette région qui s'appelait le Hijaz. Et il va se lancer dans une série de combats et que l'on retrouve très bien retracés dans deux livres, dans un livre particulièrement, qui s'appelle Tariq Najd, l'un de ses disciples, qui s'appelait Hassan ibn Rannam, dans lequel ouvrage, notamment les 70 premières pages pour ceux qui nous écoutent, eh bien, on découvre quand même une volonté clairement affichée, eh bien, de d'en découdre avec les musulmans qu'ils estimaient ne pas être musulmans, selon bien entendu Nawaq el-Islam,
selon les annulations
selon
de
les
la
annulatifs
foi.
De la foi, voilà. Et des gens contre lesquels, eh bien, il était normal, légitime, de mener bataille pour qu'ils reviennent sur ce qu'ils estimaient eux être le droit chemin. Donc, parler de cela aujourd'hui a tout son sens dans la mesure où on voit que le takfirisme a le vent en poupe. Le takfirisme, cette idéologie qui tend à considérer comme non musulmane toute personne, la plupart du temps, ne réfléchissant pas comme nous. Mais ce serait très injuste de ma part, et ce que j'ai pas fait dans le livre, de considérer que le cheikh Mohammed Abdel Wahhab la seule personnalité ou le seul théologien musulman où le wahhabisme serait ou est le seul mouvement ou la seule idéologie qui a été takfiriste. Et même Al-Ghazali, je l'ai dit dans le livre, dans une petite épître qu'il a intitulée Faisal al-Tafriqa bayna al-Islam wa Zandaqa, il le dit clairement dans les toutes premières pages lorsqu'il dit qu'en réalité tous les courants idéologiques, voire juridiques musulmans, se sont plus ou moins directement ou indirectement sortis de l'islam.
Se jeter l'anathème.
Bien entendu, en se jetant l'anathème, et c'est parti beaucoup plus loin. Et ce que j'ai essayé aussi de démontrer à travers cette histoire d'annulatif de la foi, c'est que les éléments qu'il avance sont des éléments qui, en réalité, ne font pas du tout l'unanimité et qui sont critiquables.
Alors, donnez-nous un exemple d'annulatif.
Le deuxième annulatif, pour ne citer que celui-là, et que certains jeunes, d'ailleurs, brandissent aujourd'hui de manière très inconsciente et avec une ignorance crasse, c'est la notion de tawassul, qu'on appelle l'intercession, qui consiste à dire que si tu dis « Oh toi Dieu, je te demande... »
Par les saints.
Exactement. Alors, j'ai cité dans le livre, un livre assez intéressant sur la question qui s'appelle « Shawahidul Haqqi fil istighatha tibisait al-khalq » d'un monsieur qui s'appelle Yusuf ibn Ismail.
Alors, juste pour terminer, que le tawassul, oui, il le considère comme une des formes d'annulatif qu'on appelle « shirk ».
Shirk, il considère que
le
fait de demander à Dieu de nous donner quelque chose par l'intermédiaire du prophète ou par l'intermédiaire d'un saint ou d'un savant quelconque, c'est quelque chose qui
annule la foi.
Qui annule la foi, donc c'est un des
et donc qui vous exclut de la religion.
Exactement.
Et qui fait de vous un non-musulman. Et donc à partir de là, la Turquie à l'époque, donc l'Empire ottoman étant extrêmement imprégné de ce soufisme,
oui,
où on utilise souvent ce tawassul bil anbiya ou tawassul bin nabi alayhi salatu wassalam,
oui,
sont exclus de la religion. Et voilà. Donc, de ce fait, leur donne le droit à eux de se dire, ah ben, puisque ceux qui nous dirigent ne sont pas des musulmans, eh bien, nous avons le droit de nous rebeller contre eux. Donc, cette forme de takfir que condamne Mohammed.
Beaucoup justement. Plus intéressant, votre remarque est beaucoup plus intéressante, parce que c'est pas seulement la Turquie. Dans Tariq Najd Hassan ibn Ghannam, pour revenir et préciser les choses avant de partir sur les autres. Sur le développement dans lequel je m'étais lancé, mais également dans un livre qui s'appelle Ad-Durar al-Saniya fil Ajwaba an-Najdiyya, notamment le volume 1, page 314, si ma caboche est fraîche, on voit clairement que les régions du monde musulmans de l'époque sont considérées par le cheikh Mohammed Abdel Wahhab et ses disciples, et ça, il faut avoir le courage et l'honnêteté de le reconnaître, sont considérés comme des régions mécréantes contre
parce
lesquelles...
Parce qu'ils ont comme référence le ash'arisme, ce fameux madhab ash'ari dans l'aqidah, qui annule un certain nombre d'attributs qui sont limités qu'à 20, alors que pour eux, il y en a beaucoup plus que ça.
Alors attendez, parce que vous avez prononcé le mot Mohamed Bajrafil, mais qu'est-ce que c'est que la mécréance? Qu'est-ce qu'on peut en donner finalement comme définition? Et là, vous revenez sur cette définition de la mécréance en islam.
Oui, alors juste avant
vous savez, c'est un tiroir, hein, c'est des pipi-ou.
Oui, bien sûr, c'est pour ça que le livre...
Vous voulez terminer sur l'intercession?
Exactement, juste préciser que cette question d'intercession,
à tawassul,
a ceci de particulier que... D'abord, ça n'a jamais été considéré comme une question de dogme.
C'est-à-dire c'est un détail.
C'est pas un asl, mais ça a toujours été une question de fara, c'est-à-dire une question de
fiqh, secondaire,
de jurisprudence. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, j'ai cité tout à l'heure Youssouf ibn Ismail al-Nabhani dans son livre Shawahid al-Haqq fi al-Istirat al-Tibisid al-Khalq, où il a fait quelque chose d'extraordinairement beau, c'est qu'il a pris près d'une centaine de savants musulmans, dont il a retracé et recopié des textes clairs,
des citations
claires de demandes d'intercession. Mmh. Et moi, dans le livre, je pose la question de savoir, finalement, bah, dites que Ibn Hajar al-Asqalani est kafir, il est mécréant. Alors, sachez qu'il y a des gens, je l'ai vu et lu sur Internet, qui ont écrit des choses...
Alors que je viens de la Mecque, et dans une librairie, pratiquement, Ibn Kitab Fath al-Bari, Sharh al-Bukhari, qui est un des plus gros ouvrages de Ibn Hajar, est une référence même chez ces gens-là.
C'est pour cette raison que, quelque part, c'est assez marrant de voir les choses...
Se réfère à lui, mais il lui jette voilà. Anathème.
Non, mais il y en a même qui ont
et Suyuti, et j'en passe des meilleurs.
Tous, en fait.
Sanani, Subki, Ibn Subki.
Il a recueilli près d'une centaine de tawassuls. Voilà. Et il dit, bah alors finalement, même la foi, vous la recevez de mécréants. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qui est, mais d'une aberration totale. C'est-à-dire, on marche vraiment sur la tête. Que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Allah arhamhu, ce grand théologien musulman qui est né en 660 et qui est mort en 728 de l'Égypte, qu'il ait dit des choses, c'est une chose, mais encore une fois, c'est une des raisons pour laquelle il a été combattu par ses contemporains, des gens comme Ibn Soubki et d'autres. Donc ceci pour qu'encore une fois, nous comprenions que, puisque c'est de là que nous sommes partis, les annulatifs de la foi du Cheikh ne sont pas une question d'unanimité. Au contraire, sur cette question, il est vraiment minoritaire, mais aujourd'hui, les pétrodollars ayant permis la propagation de cette manière de voir les choses, eh bien, ont permis de penser que c'était ça la majorité, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas.
Alors que c'était la minorité.
Oui.
Ça pour être réveillé, vous êtes réveillé. Réveillons-nous, c'est le titre de votre livre, Lettre à un jeune français musulman aux éditions Plein Jour, Imam Abdelali Mamoun, Mohamed Bajrafil est notre invité. On continue à feuilleter votre livre dans un instant.
C'était l'Islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Sur Beurre FM.
Sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Sur... L'islam au présent.
L'islam au présent.
Avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
C'est l'islam au présent sur Beurre FM avec un invité aujourd'hui, le professeur Mohamed Bajrafil est avec nous à l'occasion de la parution de votre deuxième livre. Il s'appelle Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman aux éditions Plein Jour. Alors, c'est un livre dense. On parlait tout à l'heure de la définition de la mécréance en islam. Alors, en quoi la notion de mécréance telle qu'on en parle aujourd'hui est-elle à revoir complètement ?
Parce que j'estime qu'on s'est éloigné de ce que dit le Coran de cette notion de mécréance. Aujourd'hui, quand on échange ici et là, on parle par exemple de Paul ou de Philippe ou de je ne sais qui, de toute façon, c'est un mécréant. Comme si, en fait, la mécréance était quelque chose avec laquelle on naissait. Non, la mécréance, par définition, toujours à partir du Coran, c'est quelqu'un, ou c'est plutôt l'expression, le refus d'une personne de reconnaître quelque chose dont elle est convaincue de la véracité. En d'autres termes, Dieu dit dans le Coran...
C'est pas la croyance, c'est pas le fait de ne pas croire.
Non, pas du tout. C'est le fait, justement, de refuser, si je puis m'exprimer ainsi, l'évidence. Bien qu'on... En fait, de refuser de la reconnaître. Dieu dit dans le Coran, par exemple, au sujet de Pharaon... Pharaon savait que le message de Moïse était la vérité, mais il n'a pas voulu le reconnaître. Et voilà. Pour cette raison, il est devenu mécréant. Mais une personne à qui on n'a pas présenté la vérité comme il se doit, une personne qui n'est pas au courant de la vérité. Alors vous allez me dire, mais pourquoi cette personne n'a-t-elle pas découvert la vérité d'elle-même puisque les moyens lui ont été donnés ? Eh bien, tout simplement parce que Dieu n'a pas voulu que les choses fonctionnent ainsi. Tout à l'heure, Abdel-Ali parlait de ce savant disciple d'Ibn Taymiyyah qui est Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, dont son livre le sentier ou les sentiers des itinérants, Madarij al-Salikin, dans l'introduction, il parle justement de cette notion de Rabb. Il définissait la notion de Rabb.
De Seigneur.
Le Seigneur. Et il dit, une des raisons pour laquelle il est le Seigneur, c'est qu'il a envoyé aux humains à la fois des messagers et des livres pour leur rappeler leur source originelle qui est d'être des serviteurs de Dieu, alors que, dit-il, il aurait pu les laisser, avec l'intelligence qu'il leur a donnée, se débrouiller et découvrir Dieu. Donc, finalement, parler du fait qu'il faille recevoir un message. Regardez la sagesse de la révélation. La révélation a duré 23 ans. Pourquoi le prophète s'est adressé aux mêmes personnes 23 ans durant? Et pourquoi aujourd'hui je devrais vivre juste avec Philippe? Aujourd'hui, Philippe, il faut que tu viennes. Philippe ne m'a pas suivi, c'est un mécréant. Non, c'est pas comme ça que les choses doivent être comprises. Et j'estime que, en fait, il fallait revenir sur ces bases-là. Parce qu'encore une fois, on s'est éloigné, mais vraiment, 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 de ce point de vue-là, de ce que disent les textes, de ce que Dieu dit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de ce point de vue-là, a eu beaucoup de choses à dire, ou au moins, tout au moins, d'ailleurs, c'est l'avis de certains théologiens musulmans, comme les Mu'tazilites, qui considèrent que on peut considérer une personne comme mécréante, ici, dans le sens où cette personne, par exemple, elle ne vient pas à la mosquée, donc à sa mort, on ne va pas faire la prière sur lui, sur elle, cette personne, mais il se peut que là-bas, elle aille au paradis parce que justement, on lui avait pas suffisamment parlé de la foi, on lui a pas donné les moyens de reconnaître. Donc, il dit, par exemple, c'est l'Amir qui leur dit dans son livre, rapportant les propos de théologiens mu'tazilites, entre autres, en disant que ici, on va vivre avec lui ici comme quelqu'un n'appartenant pas à la communauté des croyants, entre guillemets, parce que à sa mort on ne va pas aller prier, parce qu'on savait qu'elle n'était pas musulmane, etc. Mais rien ne nous dit que son salut est définitivement scellé. Ce qui d'ailleurs a poussé des gens comme l'imam al-Ghazali à interdire le fait de maudire quelqu'un ici par son nom. Et ça, c'est quelque chose de très fort, parce qu'il y a dans le Coran clairement une histoire qui est rapportée d'après laquelle le prophète a maudit des gens. Il a maudit des gens et Dieu lui a dit, mais laissa alayka fi amri min shay, tu n'as rien toi dans cette histoire là, c'est pas toi qui guide qui tu veux, mais c'est Dieu qui accorde la guidance à qui il veut. Donc ne t'en mêle pas, ne te mets pas à maudire des gens nommément. Et là, de ce point de vue là, dans le livre, je propose que nous fassions le distinguo entre la mécréance et le mécréant. La mécréance, c'est comme le vol, on condamne le vol, mais le voleur n'est pas à être condamné à vie.
Parce qu'on ne connaît pas son sort et sa destinée.
Et surtout que ça reste une créature de Dieu. Et Dieu, il a dit qu'il lui a insufflé de sa grâce.
Et puis là, il l'anoblit. Walaqad karramna bani Adam.
Donc, c'est pour cette raison que, encore une fois, vous avez pu le constater dans le livre, je suis resté très collé au texte. Pour dire, attendez, n'allons pas loin, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dévouent...
Il ne s'agit pas de faire plaisir aux valeurs occidentales, universelles.
Absolument pas.
Il s'agit véritablement de remettre en cause cette interprétation qui nous a été héritée à travers l'histoire par des hommes qui ont pu se tromper. Alors que nous, on a souvent eu cet amalgame entre texte et interprétation du texte par des hommes. Entre texte infaillible et hommes qui ont interprété qui, eux, sont faillibles.
Oui. Alors, oui.
Vous avez terminé, on peut continuer.
J'allais juste dire dans ce sens que l'imam al-Ghazali, et c'est ce que aussi je me suis attelé à faire dans le livre, c'est de montrer que tout ce que je dis là, je ne suis pas le premier à le dire. Et qu'il faut, de ce point de vue-là, savoir magnifier ce qui existe chez nous. Il existe des avis qui sont d'une beauté et d'une ouverture incroyables, qui méritent d'être mis en avant, tout simplement, encore une fois, parce que on aurait tendance aujourd'hui, ce que nous disons là, à dire que eh bien c'est la France qui nous aurait dicté cela ou je ne sais quoi. Non, l'imam al-Ghazali dans Faisal al-Tafriqa, il le dit. C'est aussi l'avis de l'Ambari, même si certains l'ont repris. C'est une manière de dire que, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est externe à l'islam. Il y a eu de ce point de vue là des débats, ma foi, très intéressants, qui mériteraient d'être aujourd'hui remis au goût du jour, notamment, et je m'arrêterai commencerai là-dessus, parce que les réalités d'autrefois ne sont pas celles d'aujourd'hui. Au temps du prophète, quand les juifs de Médine passaient à côté de lui, ils lui disaient quoi ? Assalamu alaykoum. Mort pour toi.
Poison
sur toi.
C'est le fameux somme, tu connais, Philippe ?
C'est de là d'ailleurs.
Le fameux somme.
Le fameux somme, avoir le somme. Eh bien, et le prophète, d'ailleurs, il avait interdit à sa femme Aïcha de le répondre de la même manière, pour pas que, en tant que musulman, en tant que croyant, il y ait un mot de violence qui sorte de notre bouche. Donc, il fallait même pas le répondre en répétant ce mot.
Ce mot vulgaire, ce mot agressif.
Il fallait tout simplement dire wa alaykoum.
Et
bien
vous.
Sur vous, pour justement éviter que notre bouche soit souillé par la grossièreté, ce qui va d'ailleurs pousser Aïcha radhiallahu anha wa ardaha à considérer que quand on dit un gros mot ou on ment, eh bien les ablutions se cassent. Vous voyez l'élévation à laquelle on pourrait aspirer. Mais encore une fois, les réalités d'hier n'étant pas celles d'aujourd'hui, le juif qui à Médine souhaitait au prophète la mort et ainsi à ses compagnons, eh bien c'est pas celui qui aujourd'hui peut être ton médecin qui te donne la vie, alors que celui d'autrefois il te souhaitait que tu la perdes.
Alors le réveil que vous appeler dans votre livre, c'est dire aux gens, vous avez vous aussi une raison et une capacité à réfléchir, utilisez-la de la même manière que l'ont fait vos prédécesseurs et que vous n'avez pas à penser que les ancêtres n'ont rien laissé à ceux d'aujourd'hui. Et que nous avons nous aussi la possibilité de réfléchir et de pouvoir comprendre et de contextualiser nos sources dans la réalité de manière à ce qu'elles soient harmonieuses et qu'elles soient compatibles et qu'elles puissent être vivables, entre guillemets. Est-ce que c'est un peu ça votre message?
C'est exactement cela, c'est d'autant plus cela que je dis que en fait il faut savoir reconnaître à ceux qui nous ont précédés le magnifique et énorme travail qu'ils ont accompli. Ils nous ont vraiment facilité la tâche. Le problème, c'est qu'au
lieu... Mais ça ne s'arrête pas là.
Non, justement, le problème chez nous se pose à partir de quand ? Le problème se pose chez nous à partir de l'instant où, au lieu de regarder, d'emprunter la méthodologie qu'ils ont mise en place pour parvenir au résultat qui allait de pair avec leur réalité.
On n'a pris que le résultat. On a laissé la méthodologie.
Exactement.
Parce qu'on a dit ça, il n'y a plus rien à faire. Il faut dormir, on peut dormir.
Voilà, tout a été dit, nous sommes arrivés trop tard. Alors que le contraire, ce serait de faire comme Shafi'i a fait. Et Shafi'i a été le disciple de l'imam Malik. Pendant 15 ans, il n'a pas pipé mot devant son prof. Lorsque Malik meurt en 179 de l'Hégire, et Shafi'i, il se lance dans la création d'une nouvelle école qui est devenue l'école de Shafi'i, l'école éponyme. Et on pourrait en dire autant des autres écoles juridiques. Le problème chez nous aujourd'hui, c'est que nous continuons à vouloir raisonner de la même manière, ou plutôt à prendre pour argent comptant, eh bien, les résultats auxquels ceux-là sont parvenus. Donc moi, le réveil, c'est de faire quoi en réalité ? C'est non pas de rejeter ce que les anciens nous ont laissé, mais j'appelle justement au retour à un salafisme véritable. C'est-à-dire quoi ? Soyons dans le salafisme de Mohamed Abdo, de Jamal al-Din al-Afghani et d'autres, qui consiste à dire, nous allons faire le travail que nous ont initié nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire nous confronter au texte pour, n'est-ce pas, en sortir avec quelque chose qui cadrera avec notre contexte. C'est parce qu'aujourd'hui, on entend parler de réforme, etc. Moi, en réalité, je suis quelqu'un de très, 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 très,
très... Il y a des mots qui font, vous voyez, qui font réagir. Le mot réforme, le mot salafiste.
Exactement.
Donc, réformateur, salafiste.
Mais dans le Coran, vous avez le mot islah qui se traduit par réforme.
En fait, il est
apprécié dans le Coran, le mot islah.
En fait, au-delà de cela, de tous ces mots-là, moi, peut-être que vous avez eu l'occasion de le voir, je reste très fidèle aux anciens. Mais vraiment, parce que moi, j'ai été formé dans cette école-là de maître à disciple. Et je veux que ça se continue, parce qu'on dit d'ailleurs que « celui qui n'a pas de maître, c'est que son maître, c'est le diable. » Mais en même temps, quand je me dis que je suis l'élève de mes maîtres et l'élève des maîtres de mes maîtres...
Tu n'es pas simplement l'élève des résultats, mais aussi de la méthodologie.
De la méthodologie, exactement, et qu'il faut renouer avec celle-ci.
Vous racontez l'anecdote de votre père qui un jour vous enseigne un poème, le poème le meilleur de la littérature arabe. Et qu'est-ce qu'il vous a dit avant d'enseigner ce poème ?
Alors c'est,
qu'est-ce que vous en avez fait de ce conseil qu'il vous a donné?
C'est une histoire assez personnelle.
Vous parliez de vos maîtres, c'est pour ça que j'enchaîne.
Exactement, très bien, merci beaucoup pour l'enchaînement. C'est que je devais avoir entre 12 et 14 ans à peu près, quand mon père m'a dit, on va apprendre le poème qui s'appelle « Banat Su'at ».
C'est de Hassan ibn Thabit, je crois.
Non, c'est de Ka'b ibn Zuhayr.
Ka'b ibn Zuhayr, c'est vrai.
Hassan, c'est d'autres. Et ce qui se passe, c'est qu'il se trouve dans ce poème d'une quarantaine de vers, ou de 50 pour certains, des descriptions. En fait, la particularité de ce poème, c'est qu'il est dit devant le prophète, et le prophète en a tellement été touché qu'il a offert le manteau qu'il avait sur lui, et qui a coûté par la suite plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de dinars.
Dinars en or, pièces en or.
Mais quelle est la particularité de ce poème?
Alors, la particularité de ce poème, c'est qu'on parle d'une femme, Su'ad, et on parle d'elle, et justement, on verse.
C'est une poésie d'amour métaphorique.
Qu'on appelle Ghazal. Et ce qui est beau, c'est que justement dedans que ce monsieur va faire la profession de foi pour se convertir à l'islam. Et je me rappelle que papa me disait, fais attention, ne l'enseigne pas à quelqu'un aux mœurs légères, de peur que, eh bien, il s'en serve pour draguer des filles. Alors, j'ai dit dans le livre que papa n'a pas parlé de draguer, parce que le mot draguer n'existe pas. De séduire, dirait-on. Mais dans le livre, je l'ai utilisé, mais j'ai précisé aussitôt que c'est pas exactement, c'est pour que le jeune me comprenne que j'ai utilisé ce mot-là. Et il m'a dit, ne l'enseigne pas à quelqu'un aux mœurs légères. Et quand j'ai eu à l'enseigner à la mosquée d'Ivry, à un de mes élèves qui s'appelle Ayoub, je lui ai dit exactement la même chose en lui disant que voilà, on commence ce livre, mais sache que mon papa, qui est mon maître, m'a dit de ne pas l'enseigner à quelqu'un.
Ouais, mais là, il aurait fallu que ces femmes-là, qui pourraient être éventuellement influencées par le contenu de ce poème, maîtrisent parfaitement l'arabe.
Au-delà de la maîtrise.
Aujourd'hui, où est-ce qu'elles sont ces femmes qui comprennent le poème de Banat Su'ad ou Faqal Bialium Matboul? Même le Matboul, c'est même pas ce que ça veut dire.
Oui, sauf que si tu le traduis.
Avec une traduction. C'est déjà pas mal. En traduction, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Mais au-delà de ça, c'est que j'avais envie aussi de m'inscrire dans cette lignée, dans cette continuité de la transmission, parce que tu reçois de quelqu'un qui a reçu de quelqu'un jusqu'à...
Ah, c'était ça l'exemple, c'était là le...
Justement, ce qu'on appelle le hadith al-musalsal, comme on dit, c'est qu'il y a une ligne de transmission qui se suit, je reçois de quelqu'un qui a reçu de quelqu'un, etc., pour pas couper cette chaîne, parce qu'encore une fois, on a été formé pour former d'autres personnes, ainsi que la diffusion...
Ah, j'aurais dit mutassil plutôt, le hadith al-mutassil.
Mutassil, sauf que là, on est dans le musalsal, parce que justement, j'ai décrit les conditions.
Ah, il y a une description. C'est parce que le musalsal, c'est quand il y a une description.
Bah, exactement. Oui, c'est pour cette raison que, parce que le mutassil, là, on serait dans le sahih, même si la notion d'ittisal dans le musalsal. Mais, donc, là, vous.
Le mot musalsal se traduit par feuilleton. C'est-à-dire qu'il y a un scénario.
Oui, qui s'installe. Alors, il y a 8 catégories, autant que je m'en souvienne, dont le hadith al-musalsal bil-hub, la notion de le hadith de transmission qui repose sur l'amour, celui de Mu'adh ibn Jabal, « Ya Mu'adh, innu ahibbuka faqul dubra kulli salatin, Allahumma a'ani ala dhikri wa shukri wa husni abadati » qui est le musalsal bil-qabd al-lihya. Enfin, bref, je ne veux pas ici faire
la liste de tous les scénarios que l'on peut avoir eu.
Tous les scénarios qu'on pouvait avoir, mais c'était plutôt dans cet esprit-là que je voulais me lancer.
Bon, je vous écoute. Ça fait du bien quand c'est intelligent, je peux vous dire. Hein, on pourrait vous écouter des heures. Alors, Mohamed Bajrafi, il y a énormément de sujets dans votre livre, d'interpellation aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs. Le livre s'appelle « Réveillons-nous, lettre à un jeune français musulman ». L'éditeur, c'est Plein Jour. Imam Abdelali, pour tous ceux qui ont des questions à vous poser, ils peuvent le faire, ils peuvent vous appeler.
Oui, surtout que je suis rentré de la Ramra, donc vous pouvez y aller. Le 06...
Vous vous ennuyez. Ça veut dire que l'imam Abdelali s'ennuie, qu'il a du temps.
Je ne m'ennuie pas, mais je rappelle que je suis engagé à mettre au service de ma communauté ce numéro de téléphone qui permet aux gens d'être éclairés dans leur religion. Et je rappelle que quand je ne suis pas capable, j'ai aussi le courage d'appeler même parfois Cheikh Mohamed Bajrafil pour... on a déjà eu l'occasion, je t'ai appelé plusieurs fois.
Il n'a pas besoin de moi.
Mais bon, non, si, on a besoin. On s'entraide dans la foi et dans la piété et dans la bonté pieuse. Donc, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions. 06 29 25 35 00 06 29 25 35 00. Voilà.
Puis comme vous êtes un imam connecté, allô l'imam, ce sont des... Alors moi, je ne dis pas capsules, hein, je dis ce sont des chroniques.
Des petites chroniques, des séries qui sont...
Ce sont des vidéos, vous voyez, qu'on retrouve. C'est l'imam Abdelali qui répond à des questions que vous lui posez souvent et il vous donne la réponse. Donc c'est sur YouTube, comme vous dites.
Oui, YouTube, Facebook aussi, dans mon compte. Effectivement, c'est ma page Facebook.
Bon, Mohamed Bajrafil, vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup.
L'invitation, vous êtes table ouverte. Et Imam Abdelali, on vous retrouve samedi prochain.
Inch'Allah.
Et dans un instant, nous retrouvons Maître Serran.
C'était l'Islam au présent avec Philippe Robichon et Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Sur Beurre FM. Sur